Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, nous donnons la parole au lauréat du concours d'essai « Plusieurs langues, un même monde ». Ce concours a pour objectif de promouvoir le multilinguisme et l'étude continue des 6 langues officielles des Nations Unies, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Cette année, il a été consacré au 70e anniversaire de l'ONU et aux objectifs de développement post-2015. Pour l'ONU, 2015 n'est pas une année comme les autres. L'organisation fête ses 70 ans, elle doit aboutir à un nouvel accord sur le changement climatique, mais aussi s'accorder sur un nouvel agenda mondial de développement durable qui vise à mettre fin à la pauvreté, aux inégalités et au changement climatique au cours des 15 prochaines années. Le concours d'essai annuel « Plusieurs langues, un même monde » organisé par l'Impact académique des Nations Unies et ELS Educational Services a été consacré cette année au 70e anniversaire de l'ONU ainsi qu'au prochain programme de développement. 1200 jeunes originaires de plus de 42 pays ont ainsi été amenés à écrire un essai de 2000 mots sur ces thématiques dans une des 6 langues officielles de l'ONU n'étant pas la leur. Parmi eux, 70 ont été sélectionnés comme étant les meilleurs et invités à venir à New York présenter leur essai à l'Assemblée générale de l'ONU, l'occasion pour nous d'aller à leur rencontre.
Bonjour mesdames et messieurs.
Ming Quan Chen est une jeune étudiante de Chine. Elle poursuit actuellement ses études de français et en communication dans son pays. Elle a écrit son essai en français.
Dans mon discours, j'ai parlé de la responsabilité sociétale des entreprises dans le cadre de la justice sociale parce que je suis dans la section de français. Le sujet général du cours français, c'est la justice sociale. Donc, j'ai parlé un peu qu'est-ce que les entreprises doivent faire pour avoir la justice sociale.
Par exemple,
j'ai parlé de la communication média et hors média d'entreprise sur le problème de la justice parce que je trouve que c'est très important. J'ai pris un exemple de l'association française qui s'appelle Aurore. Il a fait une campagne publicitaire avec des images de sans-abri, avec les marques de luxe détournées comme Jean-Paul Galère, Yves Sans Logement et Christian Dehors. Ça, c'est pour attirer l'attention des Parisiens et de les encourager d'avoir l'élégance d'aider ces sans-abri. Même si c'est une affiche faite par une association, mais je pense que les entreprises peuvent aussi faire comme ça, créer des publicités d'intérêt public. Et puis, je pense que les entreprises doivent chercher plus de partenariats avec les ONG et construire des projets innovants en adéquation avec les enjeux de la justice sociale.
Qu'est-ce qui vous a fait étudier le français ?
Le français, c'est mon spécialité à l'université. J'étudie le français et le journalisme comme un double diplôme. J'aime la culture française. Quand j'étais très petite, j'écoute la musique française. Je suis allée aux expositions de peinture. Mais je rêve d'aller à Paris, à Louvre. J'ai eu l'occasion d'aller en France pour une année d'échange à l'Université Lumière Lyon 2. Et j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de Français, beaucoup d'étudiants internationaux. J'ai beaucoup échangé d'idées avec eux. Et je pense que c'est très bien de maîtriser une langue étrangère parce que c'est un outil pour mieux communiquer avec les gens du monde entier.
Alors, vous êtes venu donc dans le cadre de ce concours qui avait pour thème en fait d'écrire un essai sur le développement durable. Quel est l'aspect le plus important pour vous ?
En fait, je trouve que c'est le lien entre la diversité linguistique et culturelle avec le développement durable. Par exemple, j'ai parlé des nouveaux médias. Comme ça, on a vraiment un outil de mieux communiquer avec, entre les jeunes. Et puis, j'ai parlé de l'industrie culturelle qui sont déjà développées dans certains pays, mais sont moins développées en Chine. Mais c'est vraiment une industrie qui sont en train de devenir une partie très importante dans l'économie chinoise. Grâce à l'industrie culturelle, on peut créer beaucoup d'emplois et créer beaucoup de l'argent. Comme ça, c'est mieux pour le développement de l'économie et de la culture.
各位来宾，大家好，我是 Joseph， 来自
Joseph Magua est un jeune Camerounais qui poursuit ses études de génie civil en Chine. Il a écrit un essai en chinois. Pour lui, la jeunesse peut changer le monde.
C'est la jeunesse d'aujourd'hui qui peut changer le monde. Et cette jeunesse a la capacité d'apprendre des langues. Et c'est par ces langues que nous allons pouvoir toucher la majorité des territoires dans le monde. Donc, j'ai décidé d'utiliser mon talent dans les langues pour venir ajouter un plus à la compétition.
Alors, vous étudiez le chinois. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le chinois?
J'aime la Chine depuis que je suis un tout petit garçon. Bon, je peux dire que l'amour de la Chine est venu par les films chinois et autres. Mais la culture chinoise est quelque chose que j'ai vécu depuis que je suis un enfant. À la maison, mon papa, il connaissait beaucoup de la Chine et il m'en parlait beaucoup. Donc, j'ai eu l'influence de la Chine et j'ai donc décidé, quand j'ai eu mon baccalauréat, d'aller en Chine pour poursuivre mes études.
Alors, qu'avez-vous choisi d'écrire? Quel a été votre message dans votre essai?
Mon message a été sur la santé. Je me dis, la santé, c'est la priorité dans la vie d'un être humain. Sans l'état de bien-être, un être humain ne peut pas avoir la capacité de faire quoi que ce soit. Tu peux avoir la richesse, avoir la paix dans ton pays, avoir du pétrole et autres, mais si tu n'arrives pas à donner de la santé aux enfants, il n'y aura personne pour utiliser toutes les richesses du pays. Donc j'ai décidé d'écrire sur la santé, d'expliquer comment la santé d'un pays, la santé des individus, affecte la santé d'un pays, affecte l'économie d'un pays et affecte même la politique d'un pays.
C'est un domaine qui vous intéresse sur le plan professionnel?
Sur le plan professionnel, pas vraiment, parce que ça n'a presque rien à faire avec ce que j'apprends à l'université. Je suis en train d'apprendre génie civil, donc construction. Avec la santé, il n'y a pas beaucoup de points communs. Mais en pensant plus, en écrivant mon discours aujourd'hui, j'ai trouvé un point commun. La plupart des pays africains sont sous-développés, ce qui amène des problèmes de manque d'infrastructures, par exemple des hôpitaux ou bien des routes. Et les villages de nos pays et les villes sont très différentes. S'il y a des patients dans un village, pour arriver en ville, ce sera très difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route pour prendre les patients des villages et amener en ville pour traitement. Donc je me dis, avoir la connaissance sur le plan génie civil peut également aider sur le plan de la santé, parce que nous pouvons pourvoir des infrastructures comme des hôpitaux et des routes pour faciliter le transport des patients d'un coin du pays à l'autre.
Vous avez dit que votre père baignait dans la culture chinoise. Oui. Et en fait, vous avez exposé dès un très jeune âge. Comment se fait-il que votre père s'y connaissait autant?
Mon papa est également ingénieur en génie civil. Il a eu à travailler avec beaucoup d'entreprises chinoises. Donc, la relation entre lui et les Chinois a été très grande. Donc, il a eu à voyager en Chine pour participer à des conférences de presse et autres. Et avec le temps, il s'est habitué à la culture chinoise. Il a commencé à aimer la culture chinoise et il s'est dit que si moi, son enfant, peut avoir la connaissance que les Chinois ont, ça serait un plus à la culture de notre pays, à la culture à la maison, je peux dire comme ça.
Señoras y señores, para seguir con el tema del proyecto EMA.
Elodie Gervais vient de France. Elle a écrit un essai en espagnol portant sur comment la diversité et le multiculturalisme peuvent créer de nouveaux emplois pour les petites communautés.
Moi, j'ai principalement parlé de comment les différentes cultures et diversités au sein de la globalisation actuelle pouvaient créer de nouveaux emplois pour les petites communautés et les populations plus locales afin qu'elles aient plus de rayonnement et plus de visualité sur le monde d'aujourd'hui en faisant ressortir leur culture. Donc par exemple, au niveau des populations autochtones, comment le tourisme culturel pouvait les aider justement à gagner des revenus tout en partageant justement leurs coutumes et leurs traditions auprès de personnes étrangères.
D'où l'importance de parler d'autres langues.
Oui, oui, tout à fait. Et justement, j'ai aussi développé une partie sur ça en parlant du fait que c'est très important aujourd'hui de savoir plusieurs langues afin d'agrandir l'accès à l'information à différentes populations qui ne savent pas forcément parler la même langue que nous. Pour qu'on puisse vivre dans un monde universel où il n'y a plus vraiment d'inégalités, je pense que l'important, ce serait l'accès à l'information pour tous et de manière égale.
Vous avez, au cours des deux derniers jours, établi un plan d'action. Alors, en quoi consiste-t-il et que veut-il dire pour vous?
Donc, avec mon équipe en espagnol, contrairement aux autres groupes de langues, ce que l'on a fait, c'est vraiment un projet commun. Donc, en fait, chaque participant devait après détailler une étape particulière du projet. Donc, notre projet s'appelait le projet EMA, qui était Escuela para una mejor alimentación. Et en fait, ce projet permettait justement de créer des petits potagers au sein des écoles primaires et au sein des collèges, afin de pouvoir développer chez l'enfant, dès le plus jeune âge, une importance et une conscience de sa relation avec la terre et la diversité des plantes et des cultures, afin qu'ils se rendent compte vraiment de l'impact que peuvent avoir les changements climatiques sur notre terre et comment changer ses habitudes, etc. etc. Et moi, après, plus particulièrement, j'ai développé une partie à propos des coopératives agricoles qui pourraient justement travailler en relation avec des cantines scolaires afin d'avoir une alimentation plus saine, mais à des prix plus bas puisqu'il s'agit de coopératives. Et pour nous, je trouvais que c'était quand même un sujet très important puisqu'on devait développer le second objectif de l'ONU qui était de mettre fin à la famine, d'assurer une sécurité alimentaire et une agriculture durable. Et moi, je trouve de mon point de vue qu'on a fait un travail d'équipe incroyable. Chacun a vraiment apporté son idée, son point de vue. Et au final, ça a donné vraiment un projet que je pense qu'il pourrait être de grande ampleur si les gens s'intéressent.
Je suis convaincue que la possibilité des institutions représentatives, légitimes et efficaces peut devenir
réelle. Dans notre monde, il manque l'intégration des minorités ethniques, culturelles et religieuses continue à exister.
L'intégration de la culture par les sociétés pour maintenir la paix est une manière efficace.
À mon avis, il ne peut y avoir de paix sans développement, ni de développement sans la paix.
Señoras y señores.
Joseph Hiller est un jeune lauréat haïtien qui a présenté un essai en espagnol qui a touché à plusieurs thématiques, dont la paix et l'éducation. Il souhaiterait surtout voir les paroles se traduire en action.
J'ai fait pratiquement une synthèse parce que j'abordais un peu l'éducation et la guerre dans le monde, la paix. On a beau affirmer non, de belles paroles, mais jusqu'à présent, on ne voit pas vraiment de changement au niveau mondial. Par exemple, avec la paix, il y a toujours des guerres. Donc, c'est-à-dire que c'est une problématique qu'il faut gérer bien parce que après tant d'affirmations et la situation n'a pas changé. Donc, ces critiques-là, ce sont des thèmes, des thématiques qui m'intéressent beaucoup parce que moi-même, je voudrais voir un monde meilleur, un monde différent.
Ça vous fait quoi de vous trouver à l'ONU? Est-ce que ça vous a fait une émotion? Qu'est-ce que vous avez ressenti en accédant au hall de l'Assemblée générale?
Ça a été un honneur pour moi parce que il n'est pas donné chaque jour d'avoir une chance d'entrer à l'ONU. Non? Mais aussi, je pense que c'est une responsabilité aussi. C'est un message plus positif aux jeunes qui s'efforcent.
L'ONU fête ses 70 ans cette année. Vous portez un regard critique sur l'actualité mondiale, sur l'état du monde. Quelle ONU souhaiteriez-vous voir dans 50, 70 ans?
En fait, je souhaiterais voir une ONU un peu plus honnête. Jusqu'à présent, nous avons un peu péché dans ce sens que nous affirmons des choses, mais nous ne les réalisons pas vraiment. Donc. Et des fois, il y a beaucoup de contradictions dans ce que nous disons. Je peux prendre le cas de mon pays, par exemple, est frappé un peu par la violence. Et l'ONU, ce qu'elle fait, par exemple, elle envoie des forces. Et malgré cela, la violence ne se résout pas. Donc ce que je veux dire là, c'est que si tu es en faveur de la paix, si tu dis que tu vas envoyer des forces pour résoudre le problème de la paix, ça doit exactement être quelque chose d'effectif. Donc pas seulement parler pour parler, mais il faut que les paroles-là se traduisent exactement par des actions. Donc c'est ce que j'aurais davantage aimé de la part de l'ONU et être conscient de ça, de ce qu'ils disent exactement. C'est pas dire pour dire seulement, non? Et mettre en place des processus pour réaliser effectivement ce qu'ils disent. Moi-même, je pense que c'est le point essentiel dans tout ça. Parce qu'en fait, des fois, c'est beau, le papier là, ok, nous allons rétablir la paix, nous allons faire ceci, cela, mais on se demande qu'est-ce que vous avez fait réellement, vraiment.
Vous êtes haïtien, vous ne constatez aucun apport de l'ONU dans votre pays?
Je dirais que pas vraiment. Parce que mon pays, à part de la violence, il y a aussi le problème de misère, donc sur le point économique. Et l'apport dans ce sens-là, c'est que l'ONU, on envoie de l'aide, mais des fois cette aide-là, c'est induit davantage une dépendance qu'une libération au fait du peuple. Parce que chaque fois que mon pays est frappé par un problème économique, ils disent « Ah ok, nous allons envoyer de l'aide en Haïti ». La situation ne change pas. Mais exactement, on apprécie par exemple leur intention, non? de vouloir aider. Mais je pense que peut-être il y a un autre dynamisme à introduire dans toute cette démarche d'aide. Peut-être là ne se traduit pas par un réel changement du point de vue économique. Donc, un exemple d'apport de l'ONU, c'est l'aide qu'ils envoient. Mais on pourrait concerter exactement pour voir exactement comment faire pour que cette aide-là se traduise exactement en un changement économique.
Merci beaucoup. Muchas gracias.
Merci pour votre attention. À santé.
Merci pour votre attention. C'est très gracieux.
Merci beaucoup. Muito obrigado.
Merci beaucoup. Спасибо.
Et c'est avec les paroles de ces jeunes étudiants engagés, venus des quatre coins de la planète, que se referme cette édition d'Escale. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, vous a été présenté cette semaine par Christina Silvero, avec la collaboration de Florence Westergaard, Jean-Paul Honegger, Peng Liu et Benji Candelario. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.